Chapitre 29. April. Le bateau devait faire un premier arrêt à Érié, un détail que le capitaine Scheller avait omis de mentionner lorsqu'April était montée à bord. « Je croyais qu'on allait à Cleveland, » lança-t-elle.
« Oui, mais après Érié, »
répondit-il avant de crier des ordres à son équipage. Furieuse, April s'appuya contre le mur extérieur de la timonerie, tandis que le vapeur progressait sur le canal qui menait à la baie de Presque Isle. Avant cet instant, elle n'avait jamais rien pensé de cette petite ville de Pennsylvanie. Mais le cadre du port d'Érié était plutôt pittoresque. L'endroit avait sûrement été sympathique avant le microbe du dollar. Difficile de savoir de quoi il retournait à présent, mais les quais de cette rive étaient très animés. Elle vit même des policiers en uniforme. De petites éoliennes bien alignées tournaient à l'autre bout du port. Et en passant les docks, elle entendit le crépitement caractéristique d'un générateur. Avait-il de l'électricité? Si oui, en quelle quantité? Il devenait de plus en plus clair aux yeux d'April que les conséquences de l'épidémie variaient énormément d'une région à l'autre. Si certaines semblaient totalement dépeuplées, d'autres donnaient l'impression d'avoir retrouvé un semblant d'équilibre. Elle avait vu autant de ruines calcinées que d'endroits où les gens s'étaient regroupés, avaient survécu et parfois même réussi à prospérer de nouveau. Pour chaque territoire contrôlé par les Ariens de Jamestown, il y avait une ville comme Érié dont tous les habitants, quelle que soit la couleur de leur peau, travaillaient ensemble à passer la journée. Le monde entier n'était pas comme New York. Cela lui mettait du baume au cœur. Elle en voulait quand même à Scheller de lui avoir tu la vérité quant à leur itinéraire, et pour lui avoir laissé entendre qu'il se ferait attaquer tout le long du trajet. Il n'avait vu que trois autres bateaux jusque-là, notamment parce qu'ils étaient restés loin des terres. Le lac s'était calmé une fois la brève tempête terminée, et Scheller avait donc décidé de le traverser plutôt que de longer le rivage.
« Parfois, on reste près de la frontière canadienne, et une fois au nord d'Érié, on vire au sud. »
lui avait expliqué un membre de l'équipage à mi-chemin. En sueur à force d'alimenter la chaudière, il était monté sur le pont pour faire une pause et se rafraîchir. De la cendre mouchetait ses dreadlocks.
« Les gardes-côtes canadiens hurlent à ceux qui s'approchent un peu trop de dégager, mais en cas de souci, ils donnent un coup de main. Généralement. »«
Généralement ?»«
On peut pas compter sur tout le monde, »
avait répondu le soutier. Il avait bu 2 litres d'eau depuis qu'il était monté. Il dénoua le bandana qui lui attachait les cheveux, le secoua, puis le remit en place.
« On sera à Érié dans à peu près 2 heures, »
avait-il lancé avant de redescendre. Après, il regardait l'horizon au sud, en attendant de revoir le rivage. « Érié ?» Elle était descendue voir Schuller. Ils y étaient donc arrivés, et ils attendaient de récupérer du bois et de débarquer quelques passagers. Personne d'autre ne monta à bord. Après 90 minutes et une négociation des plus acharnées entre Scheller et les dockers qui chargeaient les bûches, le vapeur reprit le canal en ronronnant. Une fois sur le lac, il contourna le parc de Presque Isle pour se diriger vers le sud-ouest et ainsi vers Cleveland. Après, il monta dans la timonerie où elle trouva le capitaine en train de manœuvrer pour éviter l'épave d'un cargo qui avait à moitié coulé en eau peu profonde.
« On arrivera à destination d'ici ce soir, »
annonça-t-il.
« D'accord. Le lac a l'air plutôt calme. »
La jeune femme regarda l'épave tandis qu'il la dépassait. Elle semblait s'être échouée avant l'hiver, qui ne l'avait d'ailleurs pas épargnée. Après, il se demanda si son équipage était mort du virus et l'avait donc laissé dériver.
« Pour l'instant, oui. On a de la chance, »
dit-il en se tournant vers elle.
« Mais restez quand même sur vos gardes.
J'ai passé les 5 derniers mois à Manhattan. Que je le veuille ou non, je suis toujours sur mes gardes. »«
Ah, c'est vrai? C'est comment là-bas? Ça avait l'air assez catastrophique à la TV, avant qu'on perde le courant. » »«
C'était assez catastrophique. Ça va un peu mieux maintenant. » »«
Mais pas assez pour que vous vous sentiez d'y rester. Enfin, il faut vraiment vouloir foutre le camp pour partir toute seule comme ça.
« Je voulais voir le reste du pays, » répliqua-t-elle. « C'est fou comme les choses sont différentes. La situation change tous les 30 kilomètres.
Alors, vous avez forcé le blocus pour jouer les touristes ?
À son ton, elle vit qu'il ne la croyait pas. Non, je suis à la recherche de quelqu'un, avoua-t-elle.
Ce qui était vrai, d'un certain point de vue. Elle cherchait à compléter l'ultime chapitre de la vie de Bill. Une fois l'épave derrière eux, Schuller s'adressa à la timonerie, à l'ancienne, via le tube qui reliait les deux compartiments.
« En avant toutes !»« À vos ordres, monsieur !»
lui recracha le tuyau. Près d'une minute plus tard, la roue à aube se mit à tourner avec plus de force dans l'eau et April sentit le bateau accélérer. C'était assez grisant. Elle n'avait quasiment pas emprunté de transport motorisé depuis la première semaine de décembre. Cela lui procura le même plaisir que lorsqu'elle avait vu ses éoliennes. Les gens tenaient le coup, et si la VLS existait bien et que le gouvernement s'accrochait assez longtemps pour le distribuer, alors peut-être que les choses étaient véritablement sur le point de s'arranger. Son optimisme l'accompagna jusqu'à Cleveland, visible à plusieurs kilomètres grâce à la lueur caractéristique de l'éclairage électrique dans le ciel.
« Mon Dieu !» s'exclama-t-elle. « Il y a du courant dans toute la ville ?»«
Oula, non !» répondit Schuller. « Loin de là. Seulement dans quelques zones près du rivage. La JTF a assez sécurisé les environs pour installer quelques gros générateurs. Et aussi des éoliennes, je crois, sur la côte. »
Ils ralentirent et entrèrent dans un port à conteneurs qui jouxtait un terrain d'aviation. Une fois le bateau amarré, April demanda.
« Vous vous arrêtez là, c'est sûr ?»«
Ouais. On récupère des marchandises et des passagers, on passe une bonne nuit, puis on retourne à Buffalo. »
« Bon, très bien, » se résigna-t-elle. « Merci pour la course. »«
Y a pas de quoi. Content que vous n'ayez pas eu à me montrer vos talents de tireuse. Si vous suivez la route 2, le long du lac, vous êtes à environ 160 kilomètres de Toledo. »
« C'est bon à savoir. Vous savez si le chemin est tranquille ?»«
Non, » répondit-il. « Mais il y a une base de la JTF au stade de foot. »
Il lui indiqua l'ouest, où il était impossible de rater l'immense bâtiment qui dominait le bord du lac. C'était l'un des endroits qui avait l'électricité.
« Vous pouvez toujours leur demander. »«
Ça marche. Bonne chance avec les pirates, » lui lança-t-elle.
« Estimez-vous heureuse de ne pas les avoir croisés ?» « Halte !» fit la sentinelle. « Identifiez-vous !»«
Je m'appelle April Keller. Je dois me rendre à Ann Arbor, dans le Michigan, et je me demandais si vous pouviez m'aider. »«
Comment ? En vous y emmenant ? Ça m'étonnerait. »«
Un conseil ou deux suffiront. À quoi dois-je m'attendre sur la route ?»
La sentinelle remonta son casque. C'était un soldat d'à peine 20 ans.
« Vous comptez y aller comment ? À pied ?»«
Si c'est le seul moyen, oui. »«
Pardonnez-moi, madame, mais c'est de la folie. »«
Peut-être bien. « Si seulement tu savais ne serait-ce que le quart de ce que j'ai déjà fait, » se dit April, « là, tu pourrais parler de folie. »«
Eh bien, les banlieues à l'ouest sont quasiment vides, » déclara-t-il après un moment. « Si vous passez par là, je vous conseille de rester aussi près que possible du lac, surtout vers les anciennes aciéries. On a eu des ennuis dans le coin. Après, mince, j'en sais rien. Entre ici et Toledo, c'est presque que de la cambrousse. » « Sauf aux abords de Sandusky. »«
Merci, » répondit la jeune femme. « C'est exactement le genre de renseignement qu'il me fallait. »« Ça vous dérange si je me ravitaille en eau avant de repartir ?»«
Pas de problème. »
Le soldat s'écarta en lui indiquant un camion-citerne situé après le point de contrôle, à l'intérieur du périmètre de sécurité. Après, il remplit ses deux bouteilles, puis en but une entière et la remplit de nouveau. Lors de son périple, elle s'était à de nombreuses reprises abreuvée à divers cours d'eau. Son estomac s'y était habitué. Mais procéder ainsi auprès d'une ville ne lui semblait pas être une bonne idée. Même si plus aucune usine ne fonctionnait depuis des mois, les rivières des environs resteraient toxiques pendant des décennies. Elle venait de renfiler son sac quand elle entendit une voix dans son dos.
« Excusez-moi !»
Elle se retourna et découvrit un agent de la division mince, à la peau et aux yeux sombres, qui la regardait d'un air suspicieux. Il tenait un fusil d'assaut FN Scar.
« Bonjour, » répondit-elle. « Vous pouvez me dire où vous avez trouvé ce sac ? Et votre Super 90 ?»
En le regardant droit dans les yeux, elle lui expliqua.
« Je les ai récupérés sur le corps d'un agent de la division du nom de Doug Sutton. Il a donné sa vie pour me sauver. »
« Ah, vraiment ? » s'étonna-t-il.
« Oui, » fit-elle. « Une bande de psychopathes nous retenait en otage, des amis et moi. Il nous a retrouvés. »«
Et ça s'est passé où ?»«
À New York. »«
À New York ? » répéta-t-il. « Mais qu'est-ce que vous foutez dans l'Ohio, alors ?
Je le traverse aussi vite que possible. »
Il la regarda un long moment. Elle aurait parié que le système de communication de la division lui confirmait déjà l'existence d'un agent nommé Doug Sutton à New York, en lui précisant ce que l'organisation savait sur les circonstances de sa mort.
Écoutez, un petit avertissement. Très peu d'agents vous laisseront le bénéfice du doute comme je viens de le faire.
Que voulez-vous dire exactement ? Demanda April, pourtant presque certaine d'avoir bien saisi le sens de ses paroles.
Je veux dire que la plupart des agents tirent d'abord et posent les questions après, quand ils voient un civil en possession d'équipements de la division. 9 fois sur 10, ça veut dire qu'il a tué l'un de nos collègues. La seule raison pour laquelle je n'ai pas fait de même avec vous, c'est parce que vous vous trouviez déjà dans une base de la JTF et que je ne vous pensais pas assez stupide pour y tenter quoi que ce soit.
C'était la deuxième fois qu'un agent remarquait son équipement et lui en parlait. Cela lui était déjà arrivé juste avant sa toute première infiltration dans la Dark Zone. On ne l'avait cependant pas averti au sujet des risques qu'elle encourait en le portant. Peut-être était-ce une nouvelle règle, ou que tous les agents ne procédaient pas de la sorte.
« Eh bien, merci de m'avoir prévenu, agent, » fit April. « Il faut que j'y aille. J'ai une longue route qui m'attend. Jusqu'à ?»« Ann Arbor.
Qu'allez-vous faire là-bas ? »
« Trouver qui a tué mon mari, j'espère, » dit-elle.
Cette demi-vérité lui semblait déjà naturelle. Bientôt, si elle atteignait sa destination, il lui faudrait poser des questions au sujet de la SBGX et de l'antiviral à large spectre. Mais c'était encore trop tôt.
« Très bien. »
Il la fixait avec gravité, mais n'avait pas l'air de vouloir la mettre en joue.
« D'après l'Isaac, « votre histoire au sujet de l'agent Sutton tient la route, » reprit-il. « Vous pouvez y aller, mais croyez-moi, mieux vaut ne pas porter notre équipement si vous n'êtes pas des nôtres. »«
Merci pour l'info, agent. » Il tourna les talons, et elle se dépêcha de ficher le camp. Le soleil commençait à se coucher. Toutefois, elle tenait à quitter Cleveland et à atteindre les zones rurales, où elle aurait moins de chances de rencontrer d'autres hommes de la SHD. Cet avertissement à l'esprit, après il réalisa qu'elle ne pourrait pas compter sur l'aide d'autres agents. ils avaient leur propre code d'honneur, et celui-ci impliquait pour certains de l'appréhender, ou pire. Il lui fallait donc avancer, et vite. De l'autre côté du stade se trouvait une zone non construite, couverte de véhicules. La plupart étaient tirés par des chevaux ou des bœufs, mais elle entendit des moteurs ronronner et sentit une odeur de frites. Elle traversa les rangées de chariots et de fourgons jusqu'à trouver un camion à plateau qui tournait au ralenti. Sur ce dernier se tenaient deux hommes qui y arrimaient des morceaux d'échafaudage en acier. À l'arrière de la cabine, deux grands tonneaux en plastique étaient remplis de ce qui ne pouvait être que de l'huile de friture. L'odeur qui s'en dégageait était très forte, et April fut frappée d'un accès de nostalgie pour les fast-foods, dont elle n'avait pourtant jamais été friande avant l'épidémie. On lui avait raconté que des gens convertissaient leurs véhicules pour les faire fonctionner à l'huile végétale, mais c'était la première fois qu'elle en voyait un.
« Excusez-moi, » lança-t-elle, « où allez-vous ? »
« Près de l'aéroport, » répondit l'un d'eux.
« Et c'est par où ?»
Il montra l'ouest du doigt.
« J'ai une faveur à vous demander, » dit-elle, « et une offre à vous faire. »
L'homme se leva, après en avoir terminé avec l'échafaudage.
« Mais encore ?»
April posa son sac et en sortit le plastique que lui avait donné Sonia une fois au bout du canal. Elle y fit un petit trou et le lui tendit.
« Tenez, sentez. »
Il se pencha et inspira. Ses yeux s'agrandirent aussitôt.
« 2 kilos de tabac, » dit-elle. « Je vous en donne la moitié si vous m'emmenez dans le Michigan tout de suite. »«
Où ça, dans le Michigan ?»«
Ann Arbor. »
Il réfléchit quelques instants.
« J'ai pas assez d'essence pour faire l'aller-retour. Mais je peux vous déposer à Toledo. »«
Ça marche, » fit April.
Elle grimpa sur le plateau et s'installa près des tonneaux. En tapotant le sac de tabac, elle lança.
« Bon, on y va ?»